Revue à point, la foi à l'ère du numérique, septembre 2021. Créer du lien dans un monde numérisé, écrit par Alain Blanchette. Un enfant de la télé. Bien avant que Radio-Canada Télé ne mette en onde une émission portant ce titre, je suis, moi, un enfant de la télé. Bobino, la boîte à surprise. Maman Fonfon, Pépino et Capucine ont bercé mon enfance. Mais, comme l'éducation que nous recevions à la maison visait, entre autres objectifs, à développer notre autonomie et notre sens des responsabilités, le lecteur comprendra que mes parents ont tenu à contrôler l'utilisation que je faisais de ce nouvel et captivant appareil. Évidemment, il était hors de question de regarder le petit écran durant les périodes de repas. Il fallait aussi que j'accorde de la priorité aux études, aux tâches ménagères qui m'étaient assignées, aux activités de plein air et quoi encore. Enfin, au début de l'adolescence, il m'a fallu négocier serré pour repousser le moment de me mettre au lit, à l'heure où nos deux seules chaînes francophones présentaient de populaires émissions. Heureusement qu'à cette époque lointaine du noir et blanc et des oreilles de lapin, bien avant la télécommande, l'offre télévisuelle était plutôt limitée. Cela facilitait indéniablement la tâche des parents. Quelques révolutions technologiques plus tard. 60 ans plus tard, c'est le numérique qui révolutionne nos sociétés et bouscule nos vies familiales ou communautaires. Son développement est fulgurant. On peine à suivre le rythme. Rapidement et de plus en plus, il envahit de grands pans de notre existence. Et comme toute nouvelle technologie, s'il enrichit irréfutablement nos vies personnelles et collectives, il permet malheureusement à des côtés plus sombres de l'âme humaine d'émerger. De nouveaux concepts sont apparus. On parle aujourd'hui de cyber-intimidation, de cyber-dépendance et de piratage informatique, et quoi encore. On découvre aussi que l'arrivée de la technologie 5G, aux promesses insoupçonnées, semble-t-il, suscite d'importantes tensions entre les grandes puissances de ce monde, tant sur le plan économique que sur les plans diplomatiques et politiques. À l'évidence, aucun d'entre nous n'arrivera à stopper ces avancées technologiques et à arrêter la marche inexorable de l'histoire. Mais devons-nous, pour autant, bêtement nous y soumettre et accepter, sans discernement, tout ce qu'on nous offre? Impérativement, et au nom de la dignité humaine, il nous appartient d'aiguiser notre sens critique, de faire des choix et de nous positionner. Quel type d'être humain et de communauté humaine notre adhésion aux valeurs de l'Évangile nous invite-t-elle à développer, à promouvoir et à défendre au cœur de tous ces bouleversements? Un être de relation. S'il est une chose que la pandémie de COVID-19 nous a permis de réaliser avec beaucoup d'intensité, c'est que nous sommes des êtres de relation, irrémédiablement reliés les uns aux autres. Un des grands défis de cette crise sanitaire n'a-t-il pas été de convaincre les animaux sociaux que nous sommes de restreindre leur contact physique afin de limiter au maximum la propagation du virus? Reconnaissons d'ailleurs humblement que ce défi, nous l'avons relevé avec plus ou moins de succès. Mais c'est une autre histoire. Certes, il en coûte parfois à une société individualiste comme la nôtre d'admettre ce fait. Je suis convaincue que le mythe du « self-made man » n'aurait jamais pu s'enraciner si profondément en Amérique du Nord s'il n'avait pas réussi à torturer quelque peu la vérité en négligeant plusieurs dimensions du réel. Relations aux autres, relations à soi, et pour le croyant, relation à Dieu. Chacune de ces composantes est inextricablement liée aux deux autres et se développe à l'intérieur d'un perpétuel mouvement de va-et-vient entre chacune. Mais si la relation est une caractéristique fondamentale de notre espèce, elle n'est pas pour autant une expérience facile à vivre. Qui en douterait d'ailleurs? La capacité relationnelle d'un individu se développe et s'installe petit à petit tout au long de son existence. Elle est tributaire d'une série de facteurs qui en faciliteront ou perturberont la croissance et elle exige du temps. Durant le carême 2021, j'ai visionné, en me branchant sur YouTube lors du dimanche de la Passion, une homélie prononcée par un des chapelains du sanctuaire marial de Lourdes en France. Il y commentait la parabole du grain de blé tombé en terre, en Jean chapitre 12, verset 24. Cet homéliste m'a fait réaliser ce jour-là que si, effectivement, le grain de blé, une fois enfoui dans le sol, devait mourir pour donner du fruit, il ne fallait certainement pas qu'il y pourrisse. Sa mort serait alors définitive. Il a poursuivi en expliquant que ce qui devait plutôt fendre et dépérir, c'était la gangue. Cette enveloppe extérieure qui recouvre le grain et qui protège la germe d'où peut jaillir une nouvelle vie. Une évidence à laquelle, je l'avoue bien candidement, le citadin que je suis n'avait jamais pensé. Pour ce prédicateur, l'image pouvait aisément s'appliquer à l'être humain. L'humus dans lequel notre vie doit germer contient une bonne dose de défis et de situations parfois difficiles à traverser. C'est un fait. Certains sont extrêmement débilitants, au risque parfois de nous faire basculer dans la mort. Mais, par ailleurs, ils peuvent aussi contribuer à assouplir un ego trop rigide qui, tel une gangue, fait obstacle à la vie, en nous enfermant dans l'orgueil et un souci de projeter une image idéalisée de nous-mêmes. Nous ne pouvons germer, grandir et vivre des relations riches et harmonieuses que dans l'humilité. Ma mère, qui a aujourd'hui 88 ans, m'a lancé un jour une parole pleine de sagesse qu'elle a ainsi formulée. On passe sa vie à apprendre à aimer, et quand on commence à comprendre un peu ce dont il s'agit, il faut partir. Ces mots m'ont marqué. La relation, plus qu'une simple interaction. Mais revenons aux nouvelles technologies. Quel impact réel ont-elles sur le développement et l'exercice de nos capacités relationnelles? Nous devons certainement nous réjouir de la chance incroyable que nous avons eue de traverser l'épidémie de COVID-19 en pouvant compter, pour interagir, sur des outils numériques extraordinairement performants. Une première dans l'histoire des grandes pandémies mondiales. Que serions-nous devenus, en effet, sans les Zoom, Google Meet, Facebook et Instagram de ce monde? Et cela, sans oublier l'extraordinaire apport de tant d'autres instruments numérisés à la recherche scientifique et médicale et à la production industrielle et pharmaceutique. Mais, évidemment, l'usage intensif de tant de nouvelles technologies nous a aussi permis d'en découvrir les limites. Nous avons fait l'expérience des contraintes qu'elles imposaient et des difficultés qu'elles étaient à même d'engendrer au-delà de leur fantastique efficacité. Ainsi, par exemple, devant la profusion de données scientifiques, pas toujours validées d'ailleurs, auxquelles elles nous donnaient rapidement accès, nous étions parfois perdus et désemparés, incapables de réellement prendre du recul pour exercer notre sens critique. Ou encore, obligé par les circonstances de recourir de manière intensive aux moyens de communication virtuelle, nous avons découvert vite la froideur. Ces derniers ne limitent-ils pas grandement en effet la perception des mouvements subtils des visages et des corps, des odeurs, des soupirs discrets et des regards chargés d'émotions? Les nuances se perdent souvent lorsque nous naviguons dans le cyberespace. Le contact humain, pur, spontané, sans filtre, sans interface, nous a probablement manqué certains jours. Indéniablement, cependant, la vie et les relations humaines bénéficient de l'apport de la recherche scientifique et des avancées technologiques. Mais gare à nous si l'outil devient une fin en soi. Le risque est bien réel alors de nous couper ainsi de grandes portions de ce qui fait de nous des êtres humains. S'il est certes passionnant et captivant pour plusieurs d'aller de découverte en découverte et d'expérimenter les possibilités infinies du monde virtuel, le cœur humain aspire à plus que cela, me semble-t-il. Il se nourrit aussi de relations avec la nature, de contacts physiques réguliers et chaleureux, de créations artistiques, de contemplation, toutes choses qui demandent du temps. Il goûte et savoure ces mille et un petits plaisirs qui, en enrichissant la vie intérieure, lui apportent de réelles satisfactions. Au fond, il s'ouvre et s'épanouit totalement en ayant prise sur le monde réel. Essentiel discernement. Dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, le pape François a ces mots que je trouve très pertinents et éclairants. Citation. Aujourd'hui, l'aptitude au discernement est redevenue particulièrement nécessaire. En effet, la vie actuelle offre d'énormes possibilités d'action et de distraction, et le monde les présente comme si elles étaient toutes valables et bonnes. Tout le monde, mais spécialement le jeune, est exposé au zapping constant. Il est possible de naviguer sur deux ou trois écrans simultanément et d'interagir en même temps sur différents lieux virtuels. Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment. Fin de citation. L'attrait est puissant et la transformation insidieuse. Si nous cédons sans retenue au chant des sirènes du Big Data et ne nous efforçons pas de prendre du recul face à ce que les géants technologiques nous proposent de manière attrayante et insistante, nous risquons fort de nous perdre et d'en arriver à nous confiner dans une forme de rationalisme étroit et sans âme. Le risque est grand aujourd'hui de voir l'esprit humain s'aliéner à ce fascinant univers technologique qu'il aura lui-même conçu. Que votre joie soit parfaite. J'ai relu dernièrement un magnifique petit bouquin de Frédéric Lenoir que, peut-être, plusieurs d'entre vous connaissent. La puissance de la joie. Je l'ai lentement savouré durant le carême et le temps pascal, alors même que la liturgie de son côté nous proposait de méditer les très riches chapitres 14 à 17 de l'Évangile de Jean, dans lesquels Jésus nous offre aussi de connaître sa joie. Cette joie que Jésus nous propose et dont Lenoir se fait le chantre dans son livre est apparemment, et en bonne partie du moins, une expérience liée à la réussite de notre vie relationnelle. Pour Jésus, dans le texte joannique, il semble clair que la joie intense et vivifiante croît avec l'approfondissement de notre relation à Dieu et aux autres. Dans les quatre chapitres si haut mentionnés, Jésus lance constamment un appel à demeurer en Dieu ou en lui, à connaître Dieu, à développer avec lui une relation intime et durable dans l'amour jusqu'à la reproduire entre nous. De son côté, dans les premières pages de son livre, Lenoir nous présente la joie comme une sorte de plaisir décuplé, plus intense, plus global, plus profond. Une émotion qui apporte une force qui augmente notre puissance d'exister, et finalement, rien de moins que le suprême désirable. C'est ainsi qu'il m'est apparu assez clairement que l'attitude juste à adopter devant la panoplie de moyens technologiques que la science contemporaine met à notre disposition est de travailler à les mettre au service de l'approfondissement de notre vie relationnelle. Poussé par un désir de connaître la joie d'aimer à la manière de Jésus, nous aurons alors le souci d'enclencher et de poursuivre un processus de discernement régulier et vigilant. Recherchant plus que tout la joie, nous apprenons à apprivoiser et à utiliser les nouvelles technologies de manière libre et créative et à les mettre au service de cette quête, en nous laissant moins facilement séduire par les plaisirs fugaces et fragmentés qu'elles nous offrent. N'ayons donc pas peur. Accueillons les possibilités que nous ouvre le monde numérique avec un esprit curieux et ouvert. Ne craignons pas les capacités prodigieuses de l'intelligence humaine, mais ayons toujours le souci de préserver notre liberté et d'exercer notre esprit critique en poursuivant notre route sur le chemin qui conduit à l'accomplissement de notre vocation d'être humain créé à l'image de Dieu. Nous savons, nous, que nous sommes nés pour la joie, fruit d'une relation et pour la relation dans l'amour. Texte lu par Louise Martin.